Je suis ravi de vous accueillir si nombreux ce soir à Station Ozone Mola pour cette première soirée d'université dont le cycle d'intervention cette année a été circonscrit par le collectif animé par Aurélia Gaillard aux problèmes scientifiques, philosophiques et éthiques, bref, aux problèmes de société induits par ce qui se joue à travers non pas la formule humanisme, transhumanisme, post-humanisme, mais dans les transformations à la fois efficientes ou potentielles que celles-ci suggèrent. Avant d'entamer véritablement notre propos, je donne la parole à Aurélia Gaillard qui va vous présenter le collectif organisateur de cette soirée.
Bonjour, enchantée, je vais prendre deux petite seconde, juste pour vous expliquer dans quel cadre donc ce projet s'est monté, parce que c'est censé être un projet pérenne, et donc tous les ans, hein, le thème changera. Ce que vous voyez, c'est donc un collectif à université, donc un certain nombre d'universitaires, hein, dont la plupart sont ici, se sont réunis et ont eu l'idée, en partenariat avec la librairie Mola et aussi en discussion avec eux, d'ouvrir donc l'univers cité sur la cité, d'où ce mot valise qui joue à la fois sur universalité et université, d'ouvrir donc un certain nombre de débats et de questionnements que des chercheurs, les universitaires avaient sur le campus plutôt, de l'ouvrir en ville et surtout de porter ces débats d'actualité. Donc ici, il va s'agir bien sûr de questions un peu pointues, mais vraiment ouvertes, hein, au grand public. Le format qui a été choisi pour le projet est à chaque fois de trois rencontres avec trois formats différents qui sont complémentaires, hein, donc je ne peux que vous inciter à aller voir les trois. Ce soir, c'est le premier type de rencontre, c'est-à-dire une table ronde de chercheurs, de disciplines variées qui n'ont pas toujours l'habitude de partager les entre eux non plus, hein, et donc il y aura autant de débats que de présentations rapides des champs de recherche. La prochaine fois, c'est le 21 mars, il y aura, vous devez avoir un flyer où il doit en rester, hein, si vous n'en avez pas, il y aura une rencontre qui sera un débat entre deux philosophes sur le thème donc du transhumanisme, et enfin il y aura une dernière rencontre pour cette année, le 4 avril, qui sera consacrée à des lectures à la fois de textes humanisme, puisque la question est quand même de savoir de quel humanisme on parle quand on se réclame de l'humanisme aussi bien pour les transhumanistes que pour leurs opposants. Et donc une série de textes à la fois classiques, hein, de Montaigne à D'Alembert, et d'un texte contemporain d'une jeune dramaturge allemande, Yulitze, dont on fera partiellement des lectures. Ce sera des commentaires d'universitaires, mais des lectures de comédiens. Je vous rassure, les universitaires ne sont pas toujours très bons dans la lecture. Et je laisse la place donc maintenant au cœur du sujet.
Merci Aurélia. Il m'incombe, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, d'animer cette soirée en tant que modérateur. Mais qu'est-ce qu'un modérateur ? Un candide ? Un distributeur de temps de parole ? Un candide distributeur de temps de parole ? Il y en a parmi nous qui jugent cette tâche ingrate. Ils la réduisent à un simple passage des micros et la surveillance de l'horloge. De cette tâche, je vais m'acquitter comme d'habitude, comme je crois savoir le faire, comme je le fais ici régulièrement, à la satisfaction de tous, c'est-à-dire à la satisfaction de mes hôtes, des invités que je modère, même si généralement ils ne sont pas enragés, ni hors d'eux, à la satisfaction de l'assistance, que je n'ai pas souvent à contenir, ni à rappeler à l'ordre, et en fonction de la conviction que mon rôle vise à placer ceux que je présente en position de dire le plus possible et le mieux possible ce qu'ils estiment devoir nous, vous, transmettre, ce qui suppose de ma part, non pas un sens de la répartie et du chronomètre, mais une inclination à poser de judicieuses questions, en courbant le bâton, en adoptant une position qui est celle de la confusion, parce que ces questions vont autoriser nos hôtes, nos invités, à déployer leurs pensées. Je vais donc m'y employer. Comment vais-je m'y prendre ? Nous procéderons en deux temps. Une première phase intitulée « Penser l'humain » où nous aurons trois intervenants, Je vous les présente rapidement. Thomas Borot, qui appartient au CNRS, à l'Institut des maladies neurodégénératives. Cédric Brun, qui est philosophe en poste à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et mon collègue Jean-Paul Angélibert, qui est comparatiste, lui aussi en poste à Bordeaux-Montaigne. Chacun d'entre eux disposera de 10 minutes et ils interviendront dans l'ordre que je viens d'indiquer en les citant. Après leurs exposés, nous pourrons consacrer environ 20 minutes à une première discussion. Je dis bien à une première discussion. Nous enchaînerons, pardon, alors avec une session intitulée « Représenter » qui nous permettra d'entendre mon collègue Apostolos Lampropoulos, qui est comparatiste, et mon collègue Bernard Lafargue, qui est esthéticien et historien de l'art, tous deux en poste à l'Université de Bordeaux-Montaigne. À la fin de ces deux communications, nous pourrons débattre pendant 30 minutes. Quant à moi, je me tournerai vers les uns et les autres, et vers vous, sans gommer qui je suis et d'où je viens, avec mes convictions et ma sensibilité. Car désormais, je crois, partout dans les rues, les transports en commun, les cafés, dans l'ensemble de l'espace public, les sujets, du moins l'immense majorité d'entre eux, les sujets, sont pris dans un enfermement technique qui les arrime, selon moi et selon d'autres, au spectacle et à sa machinerie. Ce constat, ce soir, ne suffit pas. La technologie permet à tout individu, même le plus anonyme, elle permet à cet homme sans qualité des sociétés de masse de s'intégrer lui-même dans le spectacle et à son appareillage comme peut-être une quasi-prothèse organique de celui-ci. Comment pouvons-nous regarder ce monde au sein duquel ne cesse de s'affirmer la souveraineté de la technique ? Faut-il considérer Twitter, les selfies, les réseaux sociaux, la toile comme la matrice réticulaire d'un homme nouveau et peut-être même d'un homme augmenté. Reprenant des remarques formulées récemment par Philippe Solers, je me demande si la mutation à caractère mondialisant et globalisant qui affecte chacun d'entre nous, sur tous les continents, n'implique pas un changement de structure anthropologique. L'engouement que l'on note chaque fois que dans la cité, on évoque ces thématiques, celles du transhumanisme et du post-humanisme, n'a-t-il pas en effet valeur de symptôme en tant qu'expression, peut-être d'ailleurs en tant qu'expression pas même ambivalente, de la haine du corps, de la haine de la singularité? N'est-il pas cet engouement le corollaire de ce rêve passablement faustien d'immortalité et surtout de cette furieuse inclination au calibrage et au formatage des individus en vue d'une humanité hors de portée de la contamination et de la contagion, non pas de la maladie, mais du vivant. Si, sous nos yeux, et sur fond d'une catastrophe écologique sans précédent, se met en place un monde substituant au règne des objets celui des robots, l'avènement qui lui est subséquent, celui des cyborgs, n'annonce-t-il pas la défaite des hommes ? Qu'en diraient aujourd'hui Imre Kertész et Jacques Ellul ? Il se peut que mes réserves à l'endroit d'un New Age post-humaniste, brouillant les limites du vivant et de la mort, de l'existant qui passe nécessairement et de l'éternité, sonnent à vos oreilles comme celles d'un grincheux et d'un égoïste, insensible à la souffrance d'autrui, que les progrès scientifiques et techniques sont pourtant à même de soulager. Cependant, est-ce faire preuve d'obscurantisme aigu et de conservatisme à tout craint que, dans le sillage de cet autre qui nous invitait à danser nos vies, d'opposer à la perspective d'une humanité connectée et pucée l'insoutenable et irrépressible légèreté d'une humanité finie et tremblante? Alors, chers amis, quid de l'humanité ? Faut-il encore s'en réclamer ou pas ? Ou, mieux, vaut-il s'en débarrasser de cette humanité ? Et pour cette technique qui modélise les corps et les répare comme s'il s'agissait de mécanique, la chair ne constitue-t-elle pas précisément le corps du délit ? En faisant tendanciellement disparaître les corps dans des agencements techniques de plus en plus sophistiqués, les apprentis sorciers, avec tous les guillemets que vous voulez, Ne cède-t-il pas à un fantasme de crime parfait ? Faire disparaître le corps ? L'avènement de l'homme augmenté et machinique n'a-t-il pas pour condition la fin et la mort de l'humain ? Je dis de l'humain et pas de l'humanité. L'histoire de l'humanité est-elle celle de la production entêtée et opiniâtre des conditions de sa disparition ? Ce sont des questions, celles d'un Candide qui est dans la confusion et qui courbe le bâton. Et ces questions, il m'a semblé intéressant de les soulever pour introduire les propos de mes collègues. Et sans tarder, je passe la parole à Thomas Borou.
Merci beaucoup, Jean-Michel Daversa. Je remercie aussi Aurélien Gaillard de m'avoir convié à venir parler, discuter avec vous de ces questions qui concernent le transhumanisme, même si je sors un petit peu de mon domaine de confiance. Mais je pense que c'est le rôle aussi des scientifiques de remettre en question à la fois les connaissances et ses propres capacités à en parler. Donc vous allez pouvoir constater qu'effectivement, comme l'a dit Aurélia tout à l'heure, les universitaires sont de mauvais lecteurs, puisque pour la première fois de ma vie, j'ai pris des notes et je pense que je ne vais pas être très bon, mais vous allez pouvoir en juger par vous-même. Donc avant de commencer, je suis neuroscientifique, je travaille en neurosciences et je pense que il est aisé de constater que les préoccupations du transhumanisme touchent partiellement ou entièrement l'ensemble des champs des champs de connaissances qui sont traités par les neurosciences. Cependant, avant de commencer, je voudrais relever une double ambiguïté dans le projet transhumaniste. La première réside dans le fait que les transhumanistes semblent considérer science et technologie d'un seul tenant, en niant ce qui les différencie. Or, il y a une différence fondamentale entre les deux. La science correspond à l'augmentation des connaissances, la technologie à la transformation de ces connaissances en outils. On peut donc les opposer en fonction de leur produit final. La publication pour la science, qui donne accès à tous à la connaissance produite, et le brevet pour la technologie, qui protège ces dernières pour un usage mercantile. Et on verra éventuellement les problèmes que ça peut poser. Donc la première est quasiment exclusivement du domaine académique, donc des gens qui ne savent pas lire des textes, car elle n'est pas rentable. Et la seconde est à cheval sur le domaine académique et industriel, car elle est génératrice de richesses. En jouant sur cette ambiguïté entre science et technologie, sur lesquelles les pouvoirs publics actuellement tentent de jouer aussi, et c'est un autre débat, mais le projet transhumaniste alimente ses propres fantasmes, car nous verrons que pour un certain nombre de cas, les connaissances existent, mais éventuellement, leur application technologique pose encore problème. La seconde ambiguïté réside dans le double objectif du projet transhumaniste, qui est à la fois d'améliorer les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques au-delà de ce qu'elles sont, d'une part, et d'autre part, de ramener des performances qui sont diminuées suite à un accident, à la maladie, au vieillissement, à des performances normales. Donc c'est ces deux projets qui sont à la source du projet transhumaniste, mais qui ne sont pas très bien différenciés, et je pense que cette ambiguïté aussi nécessite d'être mise en évidence. Puisque la deuxième partie, finalement, ce n'est ni plus ni moins que de la médecine, l'application de la technologie à la médecine. D'ailleurs, je voudrais commencer avec cette médecine particulière, qui est déjà largement investie par les neurosciences, donc le domaine auquel j'appartiens, en ce qui concerne le handicap, la souffrance, la maladie, et dans une moindre mesure, le vieillissement. Par manque de temps, je me focaliserai sur le handicap, qui est probablement l'exemple le plus flagrant, à la fois des avancées et du fossé qui peut exister entre science et technologie. Depuis le début du siècle, du 21e siècle, s'est développé ce qu'on appelle le domaine de l'interface cerveau-machine. Alors vous pouvez le trouver sous l'acronyme BCI, qui est son acronyme anglophone pour Brain Computer Interface. Et ce domaine a été rendu possible par la découverte des mécanismes de codage de l'information, motrice ou sensorielle, par certaines zones du cerveau dans les années 1980-1990. Depuis, se développent des tentatives technologiques pour récupérer cette information et l'utiliser en temps réel pour suppléer à une déficience motrice ou sensorielle. J'ai un exemple à vous présenter ici. Alors, sur cet exemple, vous voyez ici un singe. Il y a un système d'électrodes qui récupère au niveau de son cortex cérébral moteur l'information neuronale, et cette information est transformée, utilisée en temps réel pour actionner ce bras mécanique, ce bras robotique. Vous voyez que ça fonctionne dans les trois dimensions. L'animal est capable d'actionner ce bras et de l'utiliser pour se nourrir. Donc la technologie est là. La science est là. Dans cet exemple, La connaissance scientifique est bien établie, mais le transfert technologique pose encore de nombreux problèmes. La qualité des signaux recueillis, la stabilité des méthodes d'enregistrement, les risques infectieux, par exemple, et les effets secondaires freinent l'application. Et j'ai un deuxième exemple pour vous montrer. Alors ça, c'est un exemple qui est... Celui-là, c'est des équipes américaines. Ça, c'est un exemple qui est fait dans le laboratoire auquel j'appartiens, par l'équipe d'Erwan Beza, en collaboration avec une équipe suisse. Et donc vous voyez ici, c'est un singe qui a une transection de la moelle, donc il a un déficit moteur des membres inférieurs, du membre inférieur, c'est latéralisé. Et on recueille au niveau cortical cette information qui est transmise par Wi-Fi sur un récepteur qui est situé au niveau du flanc et qui renvoie cette information sur la moelle épinière et utilise les réflexes archaïques de marche. Qui sont ceux qui permettent au poulet de courir, par exemple, une fois qu'on lui a coupé la tête. Et donc là, vous voyez comment l'animal se déplace lorsque le système est arrêté. Et lorsqu'on le met en marche, vous voyez que l'animal se remet à marcher normalement. Donc là aussi, ça fonctionne. La science est là. On a les connaissances. Ça marche bien. Vous voyez que la récupération est bonne, sauf que ça ne dure pas très longtemps. Au bout d'un certain nombre de jours, une soixantaine de jours à peu près, le système se dégrade, et alors pour tout un tas de raisons dont je n'entrerai pas dans les détails, mais cet exemple permet de vous montrer que il y a une différence en fait entre la connaissance et notre capacité. Alors bien sûr, ça va continuer à évoluer, etc., mais les informations sont là depuis longtemps, les connaissances scientifiques sont là depuis longtemps, mais le transfert est plus compliqué à mettre en œuvre. Donc ce qui veut dire que la décision de poursuivre le transfert technologique va dépendre pour beaucoup de son intérêt socio-économique. Il y a donc fort à parier que le coût sociétal du handicap moteur ou sensoriel, qui dans nos sociétés occidentales est relativement faible, contrairement aux sociétés en voie de développement, mais qui elles ne sont pas solvables, soit un frein au développement de ces méthodes qui sont encore au stade de prototype. Donc on est encore loin de la neuroprothèse pour tous. On pourrait disserter sur les autres aspects médicaux, si vous voulez, ça pourra faire partie de la discussion. Mais je voudrais passer maintenant sur la deuxième partie du projet transhumain, qui concerne les aspects transgressifs. Donc on va éliminer rapidement le cas de l'augmentation des capacités physiques. Les risques des superprothèses dépassent largement leur intérêt et sont largement suppléés par les superorthèses et les casques de réalité augmentée. Donc on sort du domaine des neurosciences pour entrer dans celui de la robotique et de l'informatique. Pour dire ça rapidement, exit Steve Austin, l'homme bionique, vive Iron Man, l'exosquelette. Dans le domaine de l'amélioration des performances intellectuelles ou psychologiques, c'est là que la dimension fantasmatique est la plus importante. Cependant, la méconnaissance générale des processus physico-chimiques mis en jeu dans les fonctions cognitives ouvre la porte à toutes sortes de théories fumeuses actuellement. Il est donc hasardeux de proposer pour l'instant des solutions technologiques sur des bases scientifiques qui sont encore à établir. Il est d'autant plus difficile de faire la part des choses que dans ce domaine, les chercheurs eux-mêmes se laissent berner par leur propre espérance. Je n'ai pas le temps ici de faire une liste exhaustive des théories qui ont été proposées pour augmenter les performances cognitives de l'homme, mais je me bornerai à rappeler quelques principes de bon sens. Bon sens au sens de Descartes, par exemple. Donc la première, je pense que c'est quelque chose, vous en avez tous conscience, mais c'est toujours bon de le rappeler, non, nous n'utilisons pas 10% de notre cerveau. Cette expression est une aberration, à plus d'un titre. D'une part, parce que nous n'utilisons pas notre cerveau comme un muscle, mais qu'il est l'élément essentiel de notre existence, il est ce nous, moi, qui pense donc qui est, qui émerge de l'interaction entre le cerveau, le corps qu'il protège et le nourrit, et lui permet d'interagir avec l'environnement. D'autre part, tous les neurones, ce sont ces cellules qui supportent les fonctions cérébrales, cognitives, motrices, sensorielles, etc., sont constamment actifs. Il n'existe pas de neurones au repos, même pendant le sommeil ou le coma. On ne possède donc pas de réserve de cerveau à utiliser sur lequel on pourrait agir pour développer des fonctions cognitives. Des études récentes ont même montré que le cerveau d'un individu au repos, qu'on l'entraînerait à penser à rien, ce qui est plus difficile qu'on ne le pense, présente une activité oscillatoire très lente, qui implique de nombreuses zones cérébrales distribuées à l'ensemble du désert cérébral, des territoires, et on connaît encore mal le rôle de cette activité de repos, mais il semblerait qu'elle soit liée au processus de consolidation des apprentissages. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. On ne peut pas séparer le hardware, l'architecture, du software, et donc changer l'un sans modifier l'autre. Tout apprentissage, toute modification des capacités, une répercussion sur l'architecture du cerveau et réciproquement. Un exemple peut-être le plus célèbre, c'est celui de l'hippocampe, une des parties qui est liée à la mémoire des chauffeurs de taxi londoniens, dont le volume est significativement augmenté. Ainsi, de par la nature distribuée des processus, des différents processus cérébraux, il y a fort à parier que dans l'éventualité très peu probable qu'on arrive à augmenter de façon très significative une aptitude au-delà du simple apprentissage, on altère d'une façon ou d'une autre une autre fonction. Un autre aspect, c'est que le cerveau de l'homme résulte de plusieurs millions d'années d'évolution, dont la dernière étape remonte grosso modo à 100 000 ans. En accord avec les principes de la théorie de l'évolution, cette évolution est le fruit de la pression de sélection qui a favorisé les mutations qui présenterait un avantage évolutif. Il en résulte que ce qu'on appelle les fonctions cognitives sont en fait des propriétés émergentes des restructurations cérébrales favorisées par les processus évolutifs. Il ne faut donc pas se laisser abuser par le terme de fonction, qui peut laisser sous-entendre qu'il s'agit de propriétés bien définies rattachées à un module spécifique de l'organe. Ces processus sont distribués dans de vastes réseaux redondants et mal individualisés par nature. Donc le cerveau ne fonctionne pas de façon modulaire, il n'y a pas de module qu'on pourrait changer, par exemple, qui s'occupe de la décision, de l'action, etc. Un autre aspect, c'est que si nous savons que notre rationalité est limitée de par son origine, il est fort possible d'ailleurs que la rationalité absolue ne présente pas un avantage évolutif, c'est un autre débat, et si ça vous intéresse, je vous renvoie à mon ouvrage « Matière à décision » qui est paru l'année dernière, un petit coup d'auto-promo. Nos connaissances des mécanismes physico-chimiques des différents processus cognitifs sont encore très rudimentaires, et il va nous falloir encore beaucoup de temps pour que nous comprenions suffisamment pour pouvoir éventuellement agir dessus, si cela est possible, ce qui est loin d'être certain. Enfin, il semble bien que la culture et la technologie ont quasiment stoppé le processus d'évolution chez Homo sapiens, et en fournissant des outils accessibles à un grand nombre, culture et technologie ont limité les effets de la pression de sélection, on va donc observer des processus d'adaptation locaux, mais aucune de ces modifications n'est irréversible et ne peut conduire à l'apparition de nouvelles espèces, ni ne semble suffisant pour favoriser l'émergence de nouvelles capacités cognitives. Donc, je voudrais conclure. En conclusion, donc, les neurosciences sont partiellement solubles dans le transhumanisme, mais il faut garder à l'esprit cette dualité entre science et technologie. En ce qui concerne les applications médicales, dans certains cas, la connaissance existe déjà, mais le transfert technologique pose problème. Le transhumanisme peut évoluer, éventuellement pousser à aller au-delà de l'intérêt socio-économique et donc dépasser les ambitions politiques de santé, mais est-ce que cela est souhaitable ? À mon avis, ça fait partie du débat. Dans le cas des améliorations des performances cognitives, nos connaissances sont encore trop partielles pour la perspective de la création d'un surhomme transhumain, soit autre chose que du fantasme pour l'instant. Par la suite, si les connaissances émergent, c'est l'intérêt socio-économique, encore une fois au sens large, du projet qui conditionnera leur transfert technologique. Il est donc légitime de s'interroger par anticipation sur ces intérêts et sur les risques qu'un tel transfert technologique peut faire courir sur l'individu et sur la société. À cet égard, il me semble important de préserver la dichotomie entre science et technologie. À mon avis, les scientifiques doivent se garder des sirènes de la brevetabilité à outrance et de la star-upisation des connaissances, vers laquelle nous poussent nos instances de tutelle qui brouillent cette frontière. Si l'intérêt économique est possible, et encore à court terme, sur le long terme, la brevetabilité des neurosciences est probablement plus dangereuse que souhaitable. Les connaissances doivent être rendues publiques pour éviter les dérives. Cette mise à disposition doit être accompagnée d'une information du grand public et des instances pour que les choix de société en ce qui concerne les politiques de santé publique soient pris en connaissance de cause et pas sur des simples fantasmes.
Je vous remercie, Thomas Borreau. Votre intervention a été structurée en deux points. Vous nous avez bien distingué les problèmes scientifiques des problèmes de transfert de technologie. Et ensuite, sur cinq points, vous avez été amené à discuter, je vous cite, le fantasme de surhomme transhumain. Alors, je passe la parole à Cédric Brun, qui, mon collègue philosophe, qui voudrait aborder, me semble-t-il, trois points de la philosophie des sciences pour examiner cette question du transhumanisme et du posthumanisme. Cédric, à vous.
Alors, avant d'en venir vraiment au cœur de mon intervention sur cette question des liens entre philosophie des sciences et transhumanisme, peut-être deux, trois mots sur la définition même du transhumanisme, de sorte que tout le monde s'entende. Aujourd'hui, ce qu'on entend par transhumanisme, c'est l'idée que nous aurions, en tant qu'espèce, une étape de développement encore à franchir, qui nous porterait d'un état de notre développement biologique tel que nous le connaissons, l'espèce Homo sapiens sapiens, vers une nouvelle étape qui passerait par l'augmentation de nos capacités, tu l'as dit Thomas tout à l'heure, capacités intellectuelles, cognitives, psychologiques, physiques, motrices, etc., qui irait même éventuellement vers une numérisation de notre propre essence cognitive. Donc, transfert homme-machine, et c'est effectivement autour de cette communication cerveau-machine que se focalise l'essentiel de l'idée. Et donc, c'est cette idée d'une augmentation de nos capacités qui est mobilisée, et c'est pas tout nouveau, hein, ça date, la première apparition, c'est Huxley, c'est Julian Huxley, donc le frère d'Aldous. Donc Julian Huxley, c'est le fondateur du WWF, par exemple, hein, le World Wide Fund. C'est un des fondateurs de l'UNESCO également, donc c'est pas quelqu'un de totalement anodin. Il était biologiste et c'était un théoricien contemporain de l'eugénisme. Donc c'est un point important à rappeler, parce qu'il y a un ensemble de faits ici qu'il faut avoir en tête. Et depuis cette époque-là, cette idée transhumaniste a fait florès, et pour ceux d'entre vous qui sont habitués à aller voir, par exemple, des conférences TEDx, TEDx, en fait, il faudrait dire, en ligne, si vous allez voir toutes les conférences sciences et médecine, on peut voir ici un fond transhumaniste de discours qui est renouvelé quasiment de manière hebdomadaire, voire quotidienne. Donc, je vous engage à aller voir, au moins à titre d'information. Alors, ma formation d'historien de la philosophie et de philosophe des sciences fait que quand j'entends parler de transhumanisme et quand je lis les textes d'un certain nombre de transhumanistes, je commence d'abord par aller voir est-ce que c'est crédible. Le travail qu'a fait Thomas ici me paraît parfaitement salutaire. C'est-à-dire, allons voir d'abord l'état de la science et interrogeons la science sur la faisabilité du projet en l'état de nos connaissances. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans toute cette affaire, c'est trois aspects. Un premier aspect qui est celui de la construction même de l'évolution des sciences en sciences interdisciplinaires autour de cette finalité transhumaniste. Depuis le début du XVIIe siècle, les sciences se sont constituées autour d'une sorte de consensus méthodologique qui est celui de la science expérimentale. Les sciences de la nature sont construites autour de cela et qui est solidaire d'ailleurs d'une certaine conception de la nature humaine, hein, comme perfectible. Vous trouvez ça, par exemple, chez Descartes, ça a été rappelé tout à l'heure, hein, se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est vraiment l'idée centrale ici. Et donc, se rendre comme maître et possesseur de la nature, dans la bouche ou sous la plume de Descartes, ça signifie quoi ? Ça signifie faire en sorte que nos connaissances scientifiques nous permettent d'agir pour transcender, dépasser les limites naturelles qui nous sont imposées par notre condition humaine. Et donc, c'est immédiatement un projet anthropologique qui est solidaire de cette idée de science, projet anthropologique, ici au sens philosophique du terme, hein, une certaine conception de l'humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette conception de l'humain, elle est solidaire d'une certaine conception de la science, et on ne peut pas séparer l'une de l'autre sans les dénaturer l'une et l'autre. Et aujourd'hui, le discours transhumaniste, précisément, s'appuie sur l'idée que notre nature humaine est de progresser sans cesse en incorporant, en amalgamant, les connaissances scientifiques via leurs applications techniques ou technologiques. De ce point de vue, d'ailleurs, l'historien de la philosophie que je suis ou que j'ai été est attentif au fait que l'argument massu des transhumanistes est un argument qui prend la forme d'un paradoxe. Le paradoxe du Sorite. Alors, vous le connaissez peut-être sous son appellation plus vernaculaire, qui est le paradoxe du tas ou du tas de blé. C'est la question de savoir à partir de combien de grains de blé je vais avoir affaire à accumuler, je vais avoir affaire à un tas de blé. Et on peut le tourner à l'envers. Si j'ai un tas de blé, combien de grains faut-il que j'enlève pour que ça ne soit plus un tas ? D'accord. Bon, ben, la question de la limite de l'humain et du transhumain est exactement la même. À partir de combien de modifications, d'améliorations sur mon corps, sur mon cerveau, sur, peu importe, ma communication avec les machines, je cesserai d'être un humain pour devenir un trans, voire un post-humain. Et cette question-là, en fait, n'appelle aucune réponse, comme tous les paradoxes. Vous pouvez prendre le cas du crâne chauve avec le nombre de cheveux, c'est le même problème. Vous pouvez dire, à partir du moment où vous avez un cheveu, vous n'êtes pas chauve. Encore que. Mais la question, justement, de la nature humaine ne se laisse pas définir en limite parfaitement claire du point de vue essentialiste. Et en fait, l'argument sorite tel que les mégariques l'ont conçu, ils l'ont conçu précisément pour s'opposer à toutes les positions dites essentialistes concernant la nature humaine ou la nature des concepts que nous utilisons. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Donc, premièrement, prétention de la science solidaire d'une certaine conception de la nature humaine à augmenter, améliorer notre fonctionnement et donc à naturellement dénaturer ce que nous sommes. Deuxième aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est la question... Alors là, c'est mes collaborations avec Thomas qui parlent. La question des limites des connaissances en neurosciences et de l'ambition, en tout cas ce qui peut être compris comme une ambition, je ne suis pas sûr qu'elle soit réellement solidaire des neurosciences, réductionniste, c'est-à-dire qui conduise à réduire nos connaissances, par exemple, en psychologie, en sociologie, en histoire, etc., à ce qui est, au fond, le moteur de toute cette activité psychologique, sociale, etc., c'est-à-dire notre cerveau. Si, au fond, nous sommes des cerveaux, eh bien, la connaissance de ces cerveaux par les neurosciences devrait nous permettre de réduire les connaissances des sciences sociales et humaines à des connaissances en biologie, en neurobiologie, et in fine, peut-être en physique des particules. Sait-on jamais. Donc, il y a là tout un enjeu de mise en œuvre, de présupposés à la fois métaphysiques, au sens fort du terme, qu'est-ce que c'est que la nature de cette réalité qui nous entoure, mais aussi de présupposés épistémologiques sur le fonctionnement des sciences et la capacité à réduire un certain type d'explication en sciences humaines et sociales, par exemple, à des explications en termes de biologie ou de neurobiologie. Donc ça, c'est pour moi des enjeux très, très importants, et on voit comment ces questions-là sont au cœur du projet transhumain ou transhumaniste. C'est que si je suis mon cerveau, si ce qui me définit, c'est effectivement uniquement mon cerveau, c'est cette masse gélatineuse là qui se trouve enfermée dans ma boîte crânienne, au fond, cette connaissance devrait me permettre d'agir sur l'histoire directement, si nous sommes tous des acteurs historiques. Agir directement sur le cerveau de chacun d'entre nous, via des médicaments, via des molécules, via la chirurgie, via des systèmes effectivement de communication machine ou cerveau-machine, eh bien nous pourrions faire de l'ingénierie sociale, historique, économique directement là-dessus. Alors, ça paraît être complètement farfelu dit comme ça. Tout le monde, ou en tout cas ceux qui sont des fanatiques de littérature, de science-fiction, mais je ne veux pas empiéter sur les plates-bandes de mes camarades, ont peut-être en tête Fondation de Asimov, hein, dans lequel, effectivement, c'est bien cela qui est en jeu, c'est-à-dire une science de l'histoire en train de se faire, et donc qui va agir sur le futur. Donc tout ça, c'est un intérêt immédiat du débat transhumaniste. Il y a un deuxième intérêt qui est partiellement relié au transhumanisme, qui est l'usage non médical ou non biomédical des neurosciences ou des technosciences. Pensez par exemple à l'usage que nous pourrions faire d'une machine à lire dans les pensées pour des finalités, mettons, juridiques, militaires, judiciaires, matrimoniales. Si je dis ça, c'est parce que ça existe déjà, en fait. Il y a eu un certain nombre de sociétés aux États-Unis qui font leur chou gras de cette finalité-là.
Ce n'est pas parce que ça existe que ça marche.
Oui, ce n'est pas parce que ça existe que ça marche. En tout cas, ils prétendent que ça marche. Non, mais ça se vend, donc c'est qu'on l'achète. Donc, l'idée qu'on puisse améliorer nos capacités cognitives, émotionnelles, fonctionnelles, etc., par une sorte de bio-ingénierie neuroscientifique, a tout à fait sa place dans cette question des enjeux, non plus immédiatement de thérapie, mais bien, éventuellement, de contrôle des populations, de contrôle des individus, de contrôle... D'ailleurs, pas au sens dictatorial forcément du terme, mais au moins de contrôle inter-individuel de nos pensées les uns aux autres. Et enfin, il y a un dernier point moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'incorporation ou de la corporéité des neurosciences. C'est-à-dire, tel que je l'ai présenté jusqu'ici, on pourrait croire que cet essentialisme, ce neuro-essentialisme, l'idée que je suis mon cerveau, se passe du reste de notre corps. Finalement, on rejouerait le dualisme cartésien sous une autre forme. Il n'y a plus la chose pensante et la chose étendue, mais il y aurait le cerveau et le reste du corps. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que pour les transhumanistes, effectivement, le corps lui-même est le véhicule par lequel cette mutation ultime doit prendre place. Et donc, c'est par cette cyborgisation, hein, la transformation du corps humain en cyborg, en cet amalgame machine-biologie, que doit se réaliser finalement ce projet ou cette eschatologie, pourrait-on dire. Donc, moi, ça m'intéresse parce que, au fond, là, la question de l'amélioration ou de la modification fondamentale qui passerait de la réparation, du traitement thérapeutique vers l'amélioration, elle est d'ores et déjà en marche. Les prothèses que nous utilisons le plus, prothèses mammaires, qui ont été conçues pour faire de la chirurgie réparatrice, aujourd'hui sont rentables, précisément, non pas pour la chirurgie réparatrice, mais pour des finalités cosmétiques. Donc on peut tout à fait imaginer qu'une bonne part de la bio-ingénierie contemporaine aille dans ce sens-là. Non pas parce que les scientifiques qui conçoivent la recherche initialement l'ont pensé comme ça, mais simplement parce que la nature du système social, économique, capitaliste dans lequel nous sommes, l'impose d'une certaine manière. Donc, pour moi, penser le transhumanisme, c'est forcément le penser dans le cadre spécifique, politique, économique, historique dans lequel nous nous trouvons.
Merci beaucoup, Cédric Brun. Votre conclusion me permet de passer tout de suite la parole à Jean-Paul Angélibert, dont le propos sera l'ambivalence politique du post-humain.
Merci. Je vais parler d'un point de vue tout à fait différent puisque de mes deux prédécesseurs, puisque moi je suis littéraire et donc je travaille beaucoup plus sur les représentations que sur les concepts. Je pense que c'est une distinction importante parce que, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, les représentations comptent, les chercheurs eux-mêmes se laissent mener par leurs représentations comme par leurs espérances. Et pour ça, je vais remonter le temps au cours du XXe siècle. Comme on l'a déjà entendu dans les deux premières interventions, la notion de post-humain, elle vient maintenant interroger l'humanisme classique et nous donner un instrument intéressant de contestation de l'humanisme. Et à ce titre-là, on peut faire remonter son archéologie à La mort de l'homme, que Michel Foucault avait annoncé dès 1966 dans Les mots et les choses, même si le mot de post-humain était encore loin à ce moment-là. Et je voudrais faire commencer l'histoire du post-humain un peu plus tard, en 1985, avec la publication du Manifeste cyborg de Donna Haraway, même si elle n'y emploie pas encore le mot de post-humain. À ce moment-là, Donna Haraway définit le cyborg comme notre ontologie. Sa thèse est que, dans le dernier quart du XXe siècle, les sciences, les technologies, l'organisation sociale en général, ont transformé les êtres humains, les ont équipés de prothèses de toutes sortes, les ont pris en charge avant même leur naissance au moyen de systèmes techniques et de systèmes institutionnels plus largement, et ainsi ont déterminé les conditions de leur venue au monde et puis de leur vie entière. Et en ce sens, les êtres humains sont déjà devenus des hybrides de machines et d'organismes vivants. Bref, le cyborg n'est pas seulement une créature de fiction, c'est une réalité, ou autrement dit, nous sommes tous déjà des cyborgs. Alors, Donna Haraway écrivait cela dans une perspective qu'elle disait à la fois féministe et socialiste. Elle faisait du cyborg une ontologie et se donnait en même temps la nécessité d'inventer une politique du cyborg pour défaire les dualismes sur lesquels s'appuie encore la domination occidentale, masculine et capitaliste. Alors, en premier lieu, évidemment, et ça on le conçoit facilement, le cyborg remet en cause la frontière entre la nature et les techniques. Et en tant que tel, il vit déjà dans un monde post-genre. Il déconstruit l'opposition entre le masculin et le féminin. Et c'est pourquoi le féminisme peut s'en saisir, selon Haraway. La femme ne relève pas d'une nature que la technique mâle aurait pervertie. C'est-à-dire qu'aucun retour à une origine perdue, à une nature perdue, ne peut l'émanciper de la domination. Le féminisme ne doit pas rêver d'un retour à la nature. Au contraire, il doit prendre le parti de la technique et il doit approfondir notre hybridation avec la machine. Le pari de Donna Haraway, c'est que cette hybridation nous libérera, hommes et femmes, des dualismes hiérarchiques tels que corps-esprit, privé-public, féminin-masculin, primitif-civilisé, nature-culture, etc. Concrètement, cette déconstruction peut donner des arguments à des recherches sur l'utérus artificiel, par exemple, auquel on a consacré des travaux tout à fait sérieux depuis déjà une quinzaine d'années. Donc il y a une politique du post-humain qui touche des enjeux tout à fait concrets. Or, cette politique est équivoque, on l'a déjà entendu dans les propos de Cédric, par exemple. On peut comprendre le post-humain comme une promesse d'épanouissement de l'humanité grâce à la technique, qui éloigne les maladies, qui améliore les performances, et certains en rêvent, qui confère l'immortalité. Mais on peut aussi le comprendre comme la menace d'un asservissement croissant et des systèmes de contrôle de plus en plus sophistiqués. C'est là que les personnages de science-fiction nous avertissent du danger. Dans un film bien connu, Le Robocop de Paul Verhoeven, qui est sorti en 1987, un policier grièvement blessé est transformé en cyborg par une entreprise privée qui contrôle notamment la police. Cet homme devient un super policier invulnérable, incorruptible et plus efficace que tous ses collègues de chair et de sang. Mais il est aussi une créature façonnée pour servir l'entreprise qui a réparé son corps, qui l'a outillé et qui a aussi effacé ses souvenirs pour mieux la servir. Bref, le film montre un double visage du cyborg, augmentation des capacités de l'humain, mais une augmentation qui se paie d'un contrôle total du corps par une organisation qui lui est étrangère et qu'il domine. Alors, cette dualité, elle est vieille comme le robot, elle est vieille comme les fictions de simulacres humains. Elle apparaît déjà dans une des premières fictions du cyborg, qui est Le meilleur des mondes, en 1931. Alors, dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley n'imaginait pas des hybrides d'humains et de machines, mais ce qu'il inventait revenait exactement au même. Une société où les enfants sont conçus en éprouvettes, conditionnés dans des bocaux, alimentés en fonction de la classe à laquelle ils sont destinés, d'alpha qui donneront les futurs dirigeants à epsilon qui donneront les futures manœuvres, élevés en collectivité dans des jardins d'enfants et placés dans l'emploi qui leur convient. Emploi auquel leur vie contrôlée de A à Z les a préparés. Les citoyens du meilleur des mondes n'ont aucune conscience d'être manipulés. Ils vivent en bonne santé, ils sont heureux de leur sort, ils se pensent libres. L'État est satisfait de ce système qui garantit la stabilité sociale. Dès cette première fiction, tous les éléments du cyborg d'aujourd'hui sont déjà là. Aujourd'hui, les promesses du post-humain rejoignent et dépassent l'imagination de Huxley. L'Association transhumaniste mondiale vise, selon sa propre propagande, à développer les possibilités techniques pour améliorer la santé et prolonger la vie humaine, tout en augmentant les capacités intellectuelles, physiques et émotionnelles des êtres humains. Transhumaniste comme Ray Kurzweil, qui travaille aujourd'hui pour Google, a popularisé la notion de singularité. L'émergence de systèmes d'intelligence artificielle beaucoup plus puissants que le cerveau humain, qui produiraient des connaissances de manière autonome, selon leur propre agenda, et rendraient l'être humain obsolète. Et, dans une troisième direction, le roboticien Hans Moravec promet une vie après la vie. Selon lui, bientôt, nous devrions pouvoir transférer notre cerveau dans un ordinateur et ainsi lui assurer ubiquité, puisque le même cerveau serait transférable dans n'importe quelle machine, et immortalité, le transfert pouvant être répété indéfiniment. Plusieurs versions donc du post-humain, plusieurs versions différentes, dans lesquelles la visée critique est tout à fait absente, le terme n'indiquant ici ni utopie ni axiologie. L'horizon de toutes ces visées du post-humain est individualiste. Pour les plus prudents, il s'agit d'améliorer les performances de l'individu. Pour les plus ambitieux, de lui assurer un dépassement de la condition humaine. Toutes idées qui se développent quand on ne croit plus à un progrès politique, quand on ne croit plus à un idéal d'émancipation, toutes idées qui apparaissent comme, c'est l'idée d'un philosophe comme Jean-Michel Beignet, le revers des désillusions modernes. Ou autrement dit, l'idéal de perfectibilité porté par les Lumières et l'horizon de l'émancipation sont obsolètes, et dès lors, le post-humain promet leur relève par les machines. l'autonomie des systèmes techniques semble se présenter comme le substitut d'une autonomie politique qu'on n'espère plus atteindre. Et cela, j'aimerais en donner un exemple dans une fiction de robots qui précède un petit peu Le meilleur des mondes et par laquelle je vais terminer cette remontée dans le temps. Je pense à la pièce de Karel Čapek Rur, Rossum's Universal Robots, qui a été créée en 1921 et qui est à l'origine du mot robot lui-même. C'est une pièce qui est un petit peu oubliée aujourd'hui, mais elle a été beaucoup jouée en Europe dans les années 20 et hors d'Europe également. Elle a été créée en 1921 à Prague, représentée dès 1923 à Londres, Rotterdam, Vienne, Leipzig, Hambourg, Zurich et Barcelone, en 1924 à New York, Moscou, Leningrad, Budapest et Paris. Et elle a continué à être représentée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a pas été montée en France depuis les années 20, mais le sera dans une adaptation nouvelle par Robin Renucci en 2018, dans une adaptation inédite. Donc, ça a été, dans les années 20 et 30, un tel succès international que l'industrie s'en est emparée. Un fabricant londonien a construit un jouet mécanique à l'image du robot, qui est devenu la plus grande mode de l'année 1923. Et c'est ce jouet qui m'intéresse aujourd'hui. Une invention que je pense triplement révélatrice. Une figurine à apparence humaine qui imite le robot, qui est lui-même à l'image de l'homme. Le jouet vient mettre en abîme la question de la nature humaine portée par la pièce, qui s'interroge sur ce qu'est l'humanité à l'échelle industrielle. Le robot de Čapek, en effet, est un être de chair et d'os qui possède tous les organes d'un être humain, mais débarrassé, je cite la pièce, de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour qu'il travaille. Le robot était donc à l'origine un travailleur, d'ailleurs c'est le sens de son étymologie. Čapek a forgé le mot d'après le tchèque robota qui signifie travail. Et dans sa pièce, le robot est un travailleur parfait, dénué de tout ce qui entrave les ouvriers humains. Et un des ingénieurs s'en vante, je cite, « Les robots n'ont pas la moindre volonté, ni passion, ni histoire, ni âme. » La suite de la pièce lui apporte évidemment un démenti cinglant. Les robots méprisent les humains qui ne travaillent pas et se révoltent, massacrent les hommes et les femmes jusqu'au dernier. Mais alors, ils se trouvent devant l'impossibilité de créer une civilisation de robots, car ils ne savent pas se reproduire. Je passe sur le happy end dans lequel les robots redécouvrent leur propre humanité. Ils avaient en fait une âme, en latence pour ainsi dire, qui se révèle quand l'oisiveté les a libérés de leur identité de travailleurs, c'est-à-dire de robots. Mais je reviens à la figurine. À quoi pouvaient penser les acquéreurs de la figurine londonienne ? Admiraient-ils les progrès de l'esprit humain, capable de concevoir des travailleurs mécaniques pour nous libérer du travail ? Posaient-ils au contraire en vue sur une étagère l'icône de la lutte des classes, le travailleur dépossédé et aliéné auquel le capitalisme réduisait les hommes ? Tremblaient-ils à l'idée de la révolution d'octobre ? Que l'intrigue de la pièce ne pouvait pas manquer de leur rappeler, ou au contraire, espérait-il sa propagation mondiale et la victoire universelle du communisme que la pièce semblait prophétiser ? Le jouet condensait toutes les craintes et tous les espoirs des années d'après-guerre. Et en remontant plus loin, ses acquéreurs éprouvaient-ils un vertige métaphysique à l'idée de la copie de copie éloignée de 3 degrés de la réalité qui était le jouet ? Était-il sensible à la dégradation ontologique qui mène de l'être vivant au robot destiné au travail, et enfin à la figurine, pure marchandise, vouée à la consommation. Le jouet a peut-être représenté la première entreprise industrielle de marchandisation d'une œuvre littéraire. Il ne pose pas seulement une question politique, ni seulement une question métaphysique, il pose donc aussi une question proprement littéraire. Il semble avoir récupéré le robot dès son apparition sur la scène du théâtre. Autrement dit, l'industrie et la consommation ont récupéré le robot dès son entrée de jeu, dès son entrée en scène, et l'a réduit au kitsch, à la caricature, aux formes mineures. Et ensuite, le robot a fait carrière dans la science-fiction, et la littérature ne l'a jamais vraiment pris au sérieux. Les auteurs l'ont dédaigné pendant 100 ans. Que s'est-il passé pour qu'un mythe littéraire au succès instantané dans toute l'Europe, et qu'une pièce avant-gardiste ait donner lieu à une figure qui a immédiatement sombré dans le folklore? Qu'est-ce que cette figurine vient signifier en réduisant le robot au jouet? Qu'est-ce que le robot de Čapek représentait pour que les acquéreurs de ce jouet le conjurent en plaçant des modèles réduits dans leur vitrine? C'est la question de la représentation que je voudrais poser, parce que la question littéraire du post-humain est aussi une question de forme, une question de représentation, et la question du post-humain se trouve aussi là. Merci.
Merci Jean-Paul. Alors, en votre nom à tous, je remercie mes collègues. Je vais appeler... Nous allons entamer donc la seconde table ronde avec mes collègues Apostolos Lampropoulos et Bernard Lafargue. Ce panel, cette session, comme on dit aujourd'hui dans la méchante langue que nous pratiquons, étant consacrée à la représentation. Il est intitulé « Représenter ». Donc c'est Apostolos qui sera le premier à prendre la parole. Merci à vous, merci infiniment.
L'objectif de ma courte intervention est de poser quelques points pour aborder la relation entre l'humain et le numérique, ou plutôt pour tenter de caractériser l'homme 2.0, c'est-à-dire, comme on les lit dans un des documents qui ont été préparés à notre intention pour cette rencontre, je cite, « l'homme connecté qui désigne l'ensemble des techniques et des fonctionnalités du web qui permettent une connexion et une interactivité de tous ». Il me semble pourtant contre-productif de penser séparément l'humain et le technologique, l'un face à l'autre. Je préfère aller dans le sens de ce qui a déjà été appelé par certains artistes, surtout le post-internet. La période après l'émergence et la propagation du numérique, lorsque celui-ci est pris pour une évidence, au moins dans certaines parties de notre monde, et ne suscite plus l'émerveillement habituel. C'est précisément ce numérique qui m'intéresse ici. Pas celui qui fait l'écho des technologies de l'apocalyptique, pour ainsi dire, mais les numériques peu remarquables, celui qui passe parfois inaperçu. Il me semble d'ailleurs que l'organisation de notre table ronde m'encourage à aller dans cette direction. La première moitié avait comme titre « Penser l'humain », donc un verbe et son objet. Et nous venons de suivre quelques échanges tout à fait fascinants à propos de ce qu'est ou de ce que devient l'humain dans un contexte trans et post-humaniste. L'humain qui fait l'objet de cette pensée reste, jusqu'à un certain point, distinct et repérable et redéfinissable. En fait, c'était ça la discussion que nous venons d'avoir. Est-ce qu'on peut définir l'humain face au post-humain? En revanche, la deuxième moitié de notre table ronde, celle-ci, a comme titre « Représenter », juste le verbe « sans l'objet ». Je pense qu'il s'agit d'un choix très juste. On se pose sans cesse la question de la représentation depuis l'Antiquité, depuis au moins Platon et Aristote, et dans la version la plus simpliste de ces questionnements, l'acte de représenter présuppose une certaine extériorité par rapport à son objet. Un texte littéraire, un tableau de peinture, un film, voire la langue en général, viennent s'ajouter à un objet pour le représenter, mais, comme on le sait, en les trahissant et en les reconstruisant. Dans le cas du numérique, au moins du numérique en 2017, les choses semblent être encore plus complexes. Qui représente quoi et comment ? Est-ce que la représentation est une notion pertinente pour comprendre ce qui se passe à l'ère qui est la nôtre du numérique? Sur l'affiche de l'université qui nous réunit ici ce soir, on voit deux images de têtes humaines, ou presque humaines. La première représente les neurones du cerveau comme presque le branche d'un arbre. Elle passe donc par quelque chose de, pour ainsi dire, naturel, l'arbre, pour représenter quelque chose d'également naturel, le cerveau, en nous expliquant comment celui-ci marche. La deuxième image fait une spéculation à propos de ce qui pourrait être une tête future, plutôt que ne représente une tête qui existe déjà. Elle la remplace par celle d'un androïde. Une façon de poser la question serait celle-ci. Comment décrire le numérique faisant partie de nos représentations dans le sens le plus large du terme ? Ma position de départ, tout à fait approximative et discutable, est que le numérique, au moins tel qu'il est devenu de nos jours, déstabilise encore plus l'opposition latente entre l'humain et le technologique. Dans ce qui suit, je vais essayer de proposer quelques pistes, déjà évoquées dans la bibliographie récente, qui pourraient nourrir la discussion qui suivra. Un premier point aurait à voir avec la relation entre le numérique et la perfectibilité de l'humain. Nous venons de voir quelques exemples de ce que la technologie peut faire pour réparer, restituer ou faire évoluer le corps humain. Et Bernard Lafargue va y revenir dans quelques instants. Certaines des images que nous venons de voir nous ont très probablement fait penser à une science-fiction réalisée ou réalisable, à la fois captivante et terrifiante. selon la position que chacune et chacun d'entre nous prend vis-à-vis d'elle. Souvent, encore pas toujours, mais souvent, l'enjeu semble être la mise en place de ce que la nature n'a pas prévu, ou la correction de ce que celle-ci a permis comme défaut, ou la restitution de ce que, par exemple, un accident détruit. Mais le numérique a aussi une autre dimension qui m'intéresse beaucoup. Plus précisément, il n'est pas seulement ce qui s'annonce comme l'essentiel de l'avenir dont nous ferons l'expérience, il nous propose plutôt quelques explications de notre état actuel. Et en même temps, il se présente comme un supplément de nos vies, un de ces suppléments qui nous font repenser l'ensemble d'origines auxquelles il s'ajoute. Si le numérique a énormément changé certaines de nos habitudes et de nos routines, il est là pour nous rappeler toutes ces possibilités qui sont là pour nous, et parfois contre nous aussi. Un mot, si le numérique est régulièrement associé au virtuel, ce n'est pas seulement parce qu'il renvoie à un avenir, vague et lointain, ou à l'illusion d'un humain parfait. À mon avis, c'est surtout parce qu'il éteint les proportions de notre présent. Autrement dit, je vois le numérique, entre autres, comme le potentiel de notre quotidien. Mon deuxième point est lié à l'impact du numérique sur l'expérience de l'espace public et des espaces communs. Les deux objectifs ne sont pas tout à fait synonymes ici. L'image que nous vient immédiatement à l'esprit est celle de personnes qui, dans la rue, dans les trams, dans un restaurant, dans un bar où elles se retrouvent avec leurs amis, sont avec un appareil à la main. Ces personnes-là, peut-être nous, risquent d'être écrasées par une voiture ou de ne pas trop communiquer avec leurs commensaux. Et je suppose que, selon les cas, nous trouvons ces images drôles, tristes ou inquiétantes. Mais je vous inviterai aussi à envisager quelques autres pratiques de l'espace axé sur le numérique. On peut bien sûr mentionner tous les logiciels du type Google Maps, grâce auxquels nous nous sommes réorientés littéralement dans l'espace, ou la possibilité d'envoyer nos coordonnées exactes à nos interlocuteurs, ce qui a remplacé la réponse à la question « Où es-tu ?» qui, pendant la première période de la téléphonie mobile, avait remplacé la question « Comment vas-tu ?» qui, à son tour, était celle de la téléphonie fixe. À un niveau plus ouvertement politique, le numérique et les possibilités qu'il offre, surtout grâce aux réseaux sociaux, a joué un rôle particulièrement important dans les nombreuses revendications et reconquêtes de l'espace public telles que nous les avons constatées ces dernières années. Des mouvements des indignés au printemps arabe jusqu'à Nuit debout, le numérique a à la fois facilité et nourri ces rassemblements. Assemblies, je reprends ici le terme que Judith Butler a utilisé dans les titres de son dernier ouvrage. L'interaction entre les participants, puis entre celles et ceux qui s'y trouvaient loin, était, à mon avis, sans précédent. Bref, je dirais qu'on ne peut plus vraiment penser ce que serait aujourd'hui un espace public, commun, voire un espace polyphonique et démocratique, sans passer par une réflexion sur la contribution du numérique. Un troisième point que je voudrais mentionner est la relation entre les numériques et l'archive. On sait déjà que plusieurs dispositifs électroniques sont aussi des aides-mémoire et des supports qui permettent le stockage de quantités de données de plus en plus grandes. Des clés USB plutôt modestes, désormais un peu démodées, à l'iCloud, le nuage que propose Apple à ses clients pour un stockage complètement dématérialisé, en passant par les smartphones qui sont d'une capacité de plus en plus importante, on a où stocker et en fait on stocke. La facilité de la recherche par mots-clés, donc la possibilité de ne pas ranger avant de pouvoir récupérer, rend la limite entre le stockage et l'archivage très indécise. Plus encore, si le stockage facile glisse vers l'archivage, celui-ci donne à son tour naissance à une archive portable, quasi omniprésente. Je voudrais clarifier une chose ici. Je ne dis évidemment pas que l'ensemble de nos archives personnelles, professionnelles ou autres sont ou doivent devenir numériques. Nous avons toutes et tous plusieurs documents, livres, photos, cartes postales, lettres manuscrites, etc., qui restent en dehors de cette archive totale. Je dis pourtant que, à l'époque du numérique, on ne va nulle part sans une partie de plus en plus importante de notre archive. Et c'est là qu'on prend l'archive utile, les numéros de téléphone de nos proches et de nos connaissances, l'archive agréable, les photos des personnes et des paysages que nous avons prises et gardées sur nos téléphones, l'archive banale et intime, les innombrables SMS que nous avons échangés et que nous gardons fidèlement, et sans doute plusieurs autres. Dans son texte « Mal d'archives », Jacques Derrida nous propose l'archive, comme il dit, au lieu de défaillance de la dite mémoire. Et il continue pour nous dire « Point d'archives sans un lieu de consignation, sans une technique de répétition et sans une certaine extériorité. Nulle archive sans dehors. L'archive est hypomnésique, lieu extérieur et compulsion de répétition. » Les multiples archives numériques ne sont pas seulement hypomnésiques, car elles ne se contentent pas de nous rappeler quelque chose. Elles sont aussi hypermnésiques, parce qu'elles risquent toujours de nous rappeler trop. Mais si l'archive est aussi un lieu de consignation et un lieu extérieur, où nous pouvons déposer une partie de ce que notre mémoire pourra retenir, certaines archives numériques font en sorte que ces lieux extérieurs soient toujours tout près de nous, dans un sac ou une poche. C'est grâce au numérique que nous restons connectés au lieu de consignation qu'est l'archive et que, d'une certaine manière, nous devenons des portes-archives. Mon quatrième et dernier point. Il a comme but de vous rappeler que nous nous sommes réunis ici pour une soirée consacrée au transhumanisme et au posthumanisme le jour de la Saint-Valentin. Quel serait le rapport entre le numérique et la Saint-Valentin ? Plutôt contestable, mais tout de même important, à mon avis. Le numérique est devenu un des sites les plus importants sur lesquels se déploient et d'une certaine manière se réinventent nos sentiments. Les cas que l'on peut mentionner abondent. Les mises en scène de soi sur les réseaux sociaux et les expressions codifiées de nos réactions, les likes. Les photographies instantanément échangées entre connus ou inconnus. L'épuisement après plusieurs heures de travail devant l'ordinateur. L'excitation que quelqu'un peut éprouver pendant des échanges sur un site ou une application de rencontre. La joie des propriétaires des animaux domestiques qui peuvent les contacter via Skype à travers des écrans spéciaux installés dans leur domicile. Ou encore, pour passer à des situations moins idylliques, pensons à tous les sentiments suscités lorsque les utilisateurs de Facebook ont utilisé à plusieurs reprises son système de localisation Safety Check. C'est l'application qui a permis aux personnes présentes à proximité du lieu d'un attentat terroriste de prévenir leurs proches qu'elles sont saines et sauves. Ou pensons au réseau Wi-Fi, parfois disponible dans les espaces inhabitables dans lesquels sont souvent oubliés les réfugiés d'aujourd'hui, et au sentiment que celui-ci leur permet, quand ils communiquent avec leurs proches, que ceux-ci soient dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays d'accueil, si, bien sûr, il en reste encore quelques-uns. Un mot, au lieu de répéter un certain nombre de certitudes à propos de la déshumanisation provoquée par le numérique, il faudrait peut-être voir de près comment nos sentiments se réjouent et se transforment à travers ce numérique omniprésent. Donc, le numérique en tant que potentiel de notre quotidien, le numérique comme pratique de l'espace public, le numérique comme archive hypermnésique portable, et le numérique comme site des sentiments le plus divers. Voici quatre points qui me permettent, nous permettent peut-être, de penser le numérique comme pratique contemporaine de l'humain. Merci.
Merci, merci beaucoup. Ta conclusion m'évite de synthétiser ton intervention. Donc je passe la parole immédiatement à Bernard Lafargue, qui va nous parler de la perfectibilité des cyborgs.
Merci Jean-Michel. Donc, je vais aborder cette problématique de la perfectibilité du cyborg. Hein, que perfectibilité, c'est un mot qui apparaît beaucoup au XVIIIe siècle, on le trouve chez Rousseau notamment. Cette idée que l'être humain est perfectible hein, par rapport à l'animal qui, lui, est propre à rien. Donc, non, l'animal, il a des spécificités, donc il s'arrête très très vite, alors que l'homme, lui, n'étant propre à rien, il est propre à tout. Alors, je vais parler en tant que philosophe de l'art, c'est-à-dire qu'esthéticien. C'est fait que je considère les œuvres d'art comme des sortes de miroirs de leur temps, mais des miroirs intempestifs et des miroirs qui produisent des effets. C'est fait que je considère les œuvres d'art comme réalisation de nos mots qui est en même temps homo faber, ça veut dire quelqu'un qui fait, quelqu'un qui est technicien, quelqu'un qui a des connaissances scientifiques et qui est artiste. Hein. Il ne faut pas séparer l'art et la technique. Il y a eu un moment très étroit où on a fait de l'œuvre d'art une œuvre complètement séparée et exposée dans des musées. Je crois qu'il faut relier l'œuvre d'art avec la technique, avec la science de son temps, évidemment, et puis avec les effets qu'elle produit. L'image que vous aviez pour cette manifestation, hein, Léonard de Vinci et des robots contemporains, ou des intelligences artificielles contemporaines avec une forme humanoïde, hein, le montre très très bien. Donc, production d'homo faber, production d'Homo sapiens. Le mot est sapiens. Sapiens, ça veut dire qu'il réfléchit aux effets que produisent justement ces transformations de la nature, ce qu'on appelle la poiesis, qui le transforme lui-même, praxis. Et troisième point, eh bien, l'homo est également démence, démence avec plusieurs connotations. Démence, c'est-à-dire qu'il imagine, il peut devenir fou, comme on le conçoit souvent en Occident, où on a une certaine peur de la technique, avec les mythes qu'on a rappelés tout à l'heure, qui sont des mythes très dualistes, qu'on ne trouvera pas en Asie, par exemple, comme Prométhée, comme Frankenstein, tous ces mythes qui, en quelque sorte, nous imaginent que la machine va se venger sur l'homme. Si vous avez vu 2000 ans Odyssée de l'espace, on voit bien que Hal va se transformer également en quelqu'un de très méchant. On n'a pas les mêmes mythes au Japon, en Asie et dans des continents qui sont beaucoup plus animistes et qui ont une autre vision, comment dirais-je, du rapport entre l'humain et l'organique. Alors, le cyborg, en effet, en voilà un cyborg, quelqu'un qui a un passeport cyborg depuis 2010, qui s'appelle Neil Harbisson. C'est quelqu'un qui est né avec un certain nombre de défauts. Il ne voyait pas les couleurs, il était daltonien. Et donc, il s'est fait greffer à un certain nombre d'appareillages, de prothèses, notamment une caméra optique qui lui permet de transformer les couleurs qu'il ne voit pas, donc, en ondes lumineuses. C'est quelqu'un qui a également des capacités et des réalisations artistiques, puisqu'il fait des portraits qui sont des portraits sonores. Par exemple, le portrait de différentes personnalités. Donc, il a une fondation qu'il a créée avec un de ses amis, qui s'appelle Mon Rivas. Cette association a pour objet de permettre à tout un chacun de devenir cyborg. Alors, je vais faire un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec des condensations, des rapprochements dans le temps. Parce que finalement, il n'y a pas si loin de cette image, qui est une image qui date de 15 000 à peu près avant notre ère. Donc la grotte de Lascaux, la scène du puits. Et on voit un homme qui a été à l'évidence tué par le bison qui perd ses entrailles à côté, avec un certain nombre d'objets, des objets techniques. Donc il peut y avoir des lances, il peut y avoir des pieux. Et puis lui-même se transforme en oiseau. Donc l'homo faber, l'homo qui produit des objets qui sont également souvent des œuvres d'art pour survivre, pour également s'imaginer peut-être d'autres capacités, d'autres possibilités. Cet homme à la tête d'oiseau a envie peut-être de se penser comme quelqu'un qui pourrait sortir de la situation en volant ou bien en s'imaginant une âme. Il y a plusieurs mythologies qui pourraient donner lieu à cela. Donc, je vais montrer un certain nombre d'images avec une autre artiste assez célèbre qui s'appelle Orlan et qui est quelqu'un qui dit en permanence que l'art est quelque chose d'important et que donc elle a donné sa vie à l'art et que par le fait même elle a transformé son cabinet d'artiste en un cabinet qui est un cabinet de chirurgie esthétique. Donc elle se fait refaire son portrait. Alors elle a fait faire son portrait plusieurs fois à coup d'opération bien évidemment chirurgicale. Il faudrait voir les vidéos, mais je sais qu'on n'a pas le temps. C'est comme pour Niall Harbisson, on pourrait voir des vidéos très très intéressantes. Donc voilà quelqu'un qui considère que son corps est à la fois un objet et un sujet. Un petit peu comme Marcel Mauss disait que notre premier outil, c'est notre corps. On ne peut pas séparer en quelque sorte l'organique et le cybernétique. Weiner a bien mis en évidence ce côté de cybernétique. Mais même si la cybernétique apparaît au XXe siècle, on peut imaginer que, comme dans 2001, Odyssée de l'espace, quand vous jetez un bâton, il n'y a pas très loin jusqu'à la fusée. Mon optique, en tout cas, c'est celle-là. Donc, Orlan, qui véritablement se cyborgise en se donnant, en se designant le corps qui lui convient. Un autre exemple d'artiste qui artialise, c'est-à-dire qui produit des effets sur la vie de tous les jours, la vie de tout un chacun, puisque je pense en effet, avec Jean-Paul Angélibert et Donna Haraway en tout cas, que nous sommes tous des cyborgs, et comme M. Jourdain, on le sait plus ou moins. Donc Stellark, qui a consacré sa vie à s'hybrider d'un certain nombre de prothèses, ici donc c'est un troisième bras, qui lui permet de faire un certain nombre de choses. Tout à l'heure, je vous montrerai, pour terminer, une personne qui a été amputée et qui bénéficie en effet, parce que c'était un batteur, d'une troisième possibilité de jouer de la batterie. Donc, je vais un petit peu vite parce que le temps passe. Ici, je vous montre un autre personnage assez fameux qui s'appelle Hugh Hare. C'est très intéressant d'aller voir son site. C'est quelqu'un qui d'alpiniste qui a été pris par les glaces et qui a beaucoup travaillé au MIT par la suite, hein, et qui donc s'est fait faire un certain nombre de prothèses. Alors, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les prothèses ont beaucoup, beaucoup changé. Et donc, Hucker est quelqu'un qui a fait beaucoup de prothèses, qui étaient adaptées, si vous voulez, à des activités particulières, comme marcher, comme courir, comme nager, par exemple, comme faire l'escalade. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup d'escalade. Si vous allez sur son site et que vous regardez ses vidéos, vous voyez qu'il peut escalader des murs qui sont vraiment très, très impressionnants. Et donc là, il a réussi à faire des prothèses qui sont des prothèses bioniques, en effet, mais qui sont des prothèses quasiment universelles, vous voyez, parce qu'elles sont douées de microprocesseurs avec des effets de feedback entre le cerveau, hein, comme on a vu tout à l'heure avec le singe, et puis la prothèse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une interaction entre le cerveau, les muscles, et puis également donc, les jambes et la prothèse, qui a une petite batterie. Et évidemment, c'est comme Oscar Pistorius, hein, ou Aimé Mullins, hein, pour ceux, j'en vois ici, qui connaissent donc, ces artistes performeurs. Évidemment, ceux qui étaient handicapés deviennent suréquipés par rapport aux personnes qui ont la chance ou la malchance d'avoir deux jambes simplement organiques, hein, donc pour la perfectibilité du cyborg. Un autre exemple, donc avec une artiste, hein, qui a été beaucoup plus handicapée, bon, qui s'appelle Lisa Bufano. Là aussi, ce serait fantastique de voir toutes les performances, toutes les chorégraphies qu'elle peut faire. Lisa Bufano, une qui est devenue très très célèbre, moi, qui a fait le buzz sur également beaucoup de réseaux, et qui est Victoria Modesta. Alors Victoria Modesta, c'est une jeune femme qui également a été amputée pour des problèmes de péroné, hein, comme ça arrive à beaucoup, hein, beaucoup d'enfants qui naissent avec des péronés défaillants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, donc elle a été habituée à marcher avec des prothèses. Donc là, une prothèse également bionique, une prothèse qui est cosmétisée, hein, et qui est cosmotisée. Si on avait le temps de voir toutes les prothèses faites pour Aimé Mullins, qui a été une remarquable championne, hein, qui a couru beaucoup de cibathlons, hein, c'est-à-dire les Jeux olympiques pour les cyborgs, hein, qui ont commencé il y a 2 ans à Zurich. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient avec moi. Donc c'est vraiment une performance très, très intéressante. On va voir un certain nombre de personnes, en effet, qui font des performances en tant que cyborg. Un autre exemple donc, que je vous citais tout à l'heure, avec cette personne, hein, qui s'appelle Jason Barnes. Et Jason Barnes est quelqu'un qui, en effet, a été victime d'un accident avec une grande décharge électrique. Donc, il a perdu son bras et lui-même s'était fait un certain nombre de prothèses, des prothèses qu'il avait bricolées. Et puis, donc, il est arrivé à se faire faire une prothèse beaucoup plus performante. Et vous le voyez, donc, il a la possibilité d'avoir un autre bras, avec la possibilité de jouer de la batterie, mais une autre également, comme une autre baguette qui se met au diapason de l'hôte de la baguette avec laquelle il joue de la batterie. Alors, je voudrais terminer cet exposé avec simplement une synthèse, hein, ce que j'ai essayé de montrer, c'est finalement que le développement exponentiel des prothèses bioniques ces 30 dernières années, si vous voulez, qui sont mises en avant par beaucoup de réalisations qui marchent très bien, hein, pour beaucoup de personnes qui ont été victimes d'accidents, victimes d'attentats, victimes également de maladies ou autres. Bon, toutes ces personnes-là, si vous voulez, vont pouvoir utiliser ce type de prothèse et elles nous permettent de revenir en arrière et de comprendre, c'est ma manière d'esthéticien de voir les choses, les œuvres d'art comme des objets qui condensent ces différentes inventions techniques, scientifiques, avec plus ou moins de sagesse et plus ou moins démentiel des êtres humains. Je vous remercie.
Merci Bernard. Merci à vous. Et nous vous donnons rendez-vous pour le 21 mars. Merci.